Ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles pour accueillir ta parole et la mettre en pratique. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, dans le programme, on m'a donné aujourd'hui l'étude de Actes, chapitre 9, la conversion de Saul. Et on m'a donné en fait deux fois le même sujet, partie 1 et partie 2. Alors, c'est assez rare qu'on a l'occasion d'explorer un texte, d'explorer un passage plusieurs fois d'affilée. Donc, je me suis dit, je vais vraiment en profiter ce matin. La dernière fois, nous avons regardé l'histoire dans Actes, chapitre 9, de la conversion de Saul, qui deviendra Paul par la suite. Et regardez certains des aspects vraiment essentiels de cette histoire, comment Christ règne et est en train de diriger les événements de l'Église. On a regardé cette transformation radicale de Saul de Tarse, qui était un persécuteur, qui était quelqu'un animé par un zèle mal placé pour la loi de Dieu, qui l'a mené à persécuter et à tuer les chrétiens, et comment il est devenu un homme rempli de zèle et d'amour pour les autres, et un apôtre de l'évangile de Christ. Et finalement, on a regardé comment il y a ce plan de Dieu pour le salut des païens, donc des non-juifs, qui est mis en place avec la conversion de Saul, et on verra bientôt la conversion de Corneille au chapitre 10. Donc ce que nous allons faire ce matin, plutôt que revoir ces idées dans le texte, on va relire le texte, mais ensuite réfléchir à qu'est-ce que ça a changé concrètement dans la pensée et dans la vie de Saul devenu Paul, d'avoir eu cette expérience de conversion sur la route de Damas. Il y a deux certitudes, en tout cas, qui viennent de cette conversion qu'on va regarder aujourd'hui. Deux éléments essentiels de la pensée de Paul qui viennent de cette expérience. Et ces deux éléments, premièrement, c'est une expérience vraiment primaire de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, et de savoir et de comprendre comment se manifeste cette grâce de Dieu. Et la deuxième chose, c'est la réalité que l'Église est le corps de Christ. Et ces deux choses, on va voir ce matin, se retrouvent dans l'histoire de la conversion de Paul. Et bien sûr, par la suite, il va y réfléchir plus, il va développer cette pensée au fil des années, de son expérience, mais on trouve les bases de cela déjà dans sa conversion. Et ça, c'est important pour nous. Pourquoi passer 45 minutes environ à parler de ça ? C'est important pour nous parce que quand Paul parle de la grâce, qui est un thème fondamental des écrits de Paul, quand Paul parle de l'Église et du corps de Christ, un autre thème fondamental dans ses écrits, ce n'est pas juste un théologien dans une bibliothèque en train de réfléchir à différentes choses. Mais c'est quelqu'un qui a eu une expérience réelle, une expérience viscérale de Jésus en train de lui parler et en train de transformer sa vie. C'est du vécu. Et on peut penser à Pierre qui écrit dans ses lettres, on l'a vu sur la montagne, cette transfiguration. On peut penser à Jean qui parle du fait qu'ils ont touché les blessures de Jésus, qu'ils l'ont eu devant eux. Et c'était ces moments physiques, ces moments où ils étaient face à face avec Jésus qui ont changé et formé leur manière de penser au sujet de Dieu. Et je crois que la conversion de Paul sur la route de Damas, c'est la même chose. C'est un de ces événements vraiment fondateurs dans sa pensée, dans sa vie, où il a vraiment vécu quelque chose de tangible qui est là. Et bien sûr, la réflexion sur la parole de Dieu est tout aussi fondamentale. Mais ces expériences qui changent tout dans la vie pour Paul, pour Pierre, pour Jean, nous aident à comprendre ce qu'ils ont écrit par la suite. Et donc pour moi, ça m'aide dans le sens que chaque fois que je lis les écrits de Paul qui parlent de la grâce, je me dis « Ah, ça c'est vraiment vrai pour Paul, c'est quelque chose qu'il a vécu ». Quand Paul parle du corps de Christ, on peut de nouveau dire « Ah, ça c'est quelque chose qu'il a vécu ». Et donc, juste le but pour ce matin, c'est d'avoir un moment pour regarder ces idées, pour penser à cela, et voir si ça peut nous aider à comprendre un peu mieux le reste des écrits de Paul quand on lit. Donc voilà le but pour ce matin. Commençons en lisant dans Actes chapitre 9, à partir du verset 1, et on va prendre le temps et juste lire jusqu'au verset 22, donc cette histoire pour se remettre en mémoire de la conversion de Saul. Actes chapitre 9, les versets 1 à 22. Cependant Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de rejoindre la baie contre les aiguillons. Tout tremblant et stupéfait, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se leva de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse, car il prie. » Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Et il se leva et fut baptisé. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait intérieurement de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Donc voilà l'histoire de la conversion de Saul, histoire si importante que Luc va le répéter au chapitre 22 des Actes, et au chapitre 26, une de ces triples histoires si importantes du livre des Actes. Regardons donc ces deux choses, ces deux certitudes que Saul a eues à travers cette conversion. La première chose, c'est, on va voir ces certitudes qu'il va former au sujet de la grâce de Dieu, sa compréhension de la grâce de Dieu qui est le fondement, bien entendu, de notre relation avec Dieu. Saul va découvrir, premièrement, que le salut, avec la grâce de Dieu, le salut, ce sont les œuvres de la chair et de la loi. Quand on pense à qui était Saul avant sa conversion, il y a ce texte dans Philippiens 3, versets 4 à 6. Vous l'avez sur vos feuilles, si vous voulez, ouvrez le passage dans vos Bibles, si vous voulez souligner ou prendre des notes. Mais dans Philippiens 3, versets 4 à 6, Paul décrit qui il était avant cette rencontre avec Jésus. Il dit, « Pourtant moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. » Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison, moi. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, et quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, et quant à la justice légale, j'étais irréprochable. Bon, on voit cette description-là, et il faut comprendre quelque chose. Paul n'est pas en train ici de se vanter de quelque chose. Tout ce qui vient après, il va expliquer pourquoi ces choses n'ont pas de valeur à ses yeux, à cause de Christ. Mais vous avez vu comment était sa vie. Quelqu'un qui était par les alliances avec Dieu, par sa naissance, quelqu'un en position privilégiée avec Dieu, un membre du peuple élu. C'était quelqu'un hébreu, c'est-à-dire qui parlait la langue hébraïque, qui avait cette connaissance des Écritures qui ne dépendait pas d'un traducteur ou autre chose. Mais surtout cette relation avec la loi. Il était pharisien. Les pharisiens, c'était ceux qui pratiquaient la loi avec le plus de rigidité et le plus de perfection. Et il va jusqu'à dire, quant à la justice légale, il était irréprochable. Et de nouveau, je crois qu'il faut faire confiance à Paul quand il dit ça. Paul, c'était un peu, en quelque sorte, l'idéal, la présentation idéale du juif fidèle qui suit la loi de Dieu, qui était capable de prendre cette loi que Dieu avait donnée au peuple d'Israël et de dire, quant à cette loi, j'étais irréprochable. Il a réussi. Il a enfin atteint l'objectif qu'avait un juif fidèle de suivre la loi de Dieu de tout son cœur et d'être irréprochable en cela. Bon, où est-ce que cette irréprochabilité devant la loi l'a mené? Où est-ce que cette poursuite de la justice selon la loi l'a mené? Bon, lorsque nous voyons la vie de Saul, c'était quelqu'un qui persécutait les disciples du Messie et à travers cela, comme on va voir, le Messie lui-même. Celui qui avait tenté d'obéir à la loi avec tout son cœur était devenu, sans s'en rendre compte, l'ennemi du Christ. Celui qui attaquait et qui blasphémait Christ lui-même. Presque personne n'avait mieux gardé la loi que Paul, avec plus de zèle ou de dévotion, mais cette dévotion à la loi ne l'a pas empêché de tomber dans le péché, et de tomber complètement dans le péché. En fait, son zèle pour la loi devient une pierre d'achoppement pour lui d'accepter Christ. Et quand on regarde ça, quand on voit cette réalité pour Saul, quelqu'un qui vit dans la loi de Dieu de tout son cœur et qui fait cela, et qui pourtant se rend compte sur la route de Damas qu'il est ennemi de Dieu, bon, il y a cette remise en question par rapport à la loi. Pas qu'elle soit bonne, pas qu'elle vienne de Dieu, mais que la loi, que l'observation de la loi, on devrait dire, comme fondation de notre relation avec Dieu, cela ne fonctionne pas. Paul a basé sa relation avec Dieu sur le fait qu'il suit la loi. Et cela ne lui a servi à rien. Il dit, mais après, hein, toutes ces choses, je les considère comme des ordures. Alors, qu'est-ce qui a changé pour lui? Bon, il a rencontré le Christ. Donc, la réalisation de Paul, et ça, on voit dans Romains, par exemple. Il y a même une classe sur Romains les samedis matins. Je vous encourage à y participer. Ce que Paul a constaté à travers cela, c'est que la loi ne peut pas sauver du péché. Ça, c'est vraiment l'idée essentielle qui est là. La loi ne peut pas sauver du péché. Car Paul suivait la loi de tout son cœur, avec un zèle qui était complet, avec vraiment une précision formidable, hein, comme un pharisien. Et malgré cela, il est tombé dans le péché. Donc si la loi ne peut pas sauver du péché, qu'est-ce qui sauve du péché? Pensez à la grâce de Dieu en Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui est donné. Donc Paul se rend compte que la loi ne peut pas mener au salut. Et plus tard, en relisant l'Ancien Testament, les Écritures juives, il va se rendre compte que c'était toujours le message des Écritures, que Dieu a toujours été comme ça avec son peuple. Mais non seulement cela, il verra non seulement que ce n'est pas la loi qui nous sauve du péché, mais que le salut n'est pas basé sur un mérite ou une œuvre qu'on a faite par rapport à Dieu. Il y a cet appel qui est dans Actes 22, verset 6. Ananias vient trouver Saul, et Saul, il est aveugle depuis 3 jours, il jeûne, il ne boit pas, il prie. Et Ananias vient et dit, bon, j'ai été envoyé par Christ pour t'appeler, pour que tu recouvres la vue. Et il y a ces paroles extraordinaires, Actes 22, verset 6. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant son nom. Ce qui est remarquable ici, c'est que depuis sa conversion, Saul n'a vraiment rien fait de concret pour plus mériter le salut. Bon, il a regretté ce qu'il a fait, il a prié et ces choses-là, et la contrition, la repentance sont des bonnes choses. Mais qu'est-ce que Saul a fait concrètement pour avoir des points avec Dieu? Bon, absolument rien. Il a passé toute sa vie adulte avant à s'opposer à Dieu, il se rend compte qu'il a fait du mal, et puis il attend. Il attend dans la prière, dans le jeûne, en l'attente de Dieu, mais il n'a rien à offrir à Dieu, et il n'a rien offert à Dieu au niveau de ses œuvres. Et pourtant, quel est le message? Lève-toi, sois baptisé, sois lavé de tes péchés. Le pardon de Dieu entre quand Paul n'a rien donné à Dieu en échange. Et il y a cette réalisation, je crois, qui est ancrée complètement dans son identité en Christ qui est là, c'est que je n'ai rien donné à Christ, je n'ai rien fait pour mériter ce salut, mais j'ai reçu le pardon quand même, j'ai reçu la grâce quand même. Et donc par la suite, quand il y a des débats qui vont entrer dans l'Église, hein, les judaïsants qui disent, bon, il faut suivre la loi, il faut être circoncis pour être sauvé, pour être accepté par Dieu. Quand il y a les gens qui commencent à amener ces différentes œuvres qui deviennent des conditions du salut, Paul va dire, non, c'est la grâce sans la loi, sans les œuvres de la chair. Dans Romains 3, versets 21 à 24, Paul dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Et Paul peut dire cela parce qu'il a vécu la grâce gratuite de Dieu. Il n'a rien donné à Dieu qui méritait ce pardon. Il n'a rien fait qui pouvait lui faire mériter le salut de Dieu. Et là, il en est convaincu. Il a zéro. Il n'a pas un bon point ou deux bons points, quoi que ce soit. Et pourtant, il y a la grâce de Dieu qui a surabondé en lui. Et donc, il peut dire sans la loi, parce qu'il a essayé la loi et cela n'a pas marché. Sans les œuvres, parce qu'il n'avait rien à offrir à Dieu. Bon, la grâce de Dieu a surabondé. Ah, ce n'est pas lié directement à Actes chapitre 9, mais la question vient naturellement alors. Sans la loi et sans les œuvres, alors comment est-ce qu'on va vivre avec Dieu? Et Paul parle de ça, parce que c'était une des accusations contre lui. Il disait, c'est sans la loi, c'est sans les œuvres qu'on est justifié devant Dieu. Les gens disent, bon, ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut et puis on vit n'importe comment. Lisez Romains chapitre 6, lisez Romains chapitre 8, si vous voulez une réponse plus complète de cela. Mais en résumé, Paul va répondre de trois manières différentes. Premièrement, il dira que notre manière de vivre, c'est l'expression de notre nouvelle identité en Christ. Nous qui sommes entrés en Christ par la foi et le baptême, nous allons exprimer, nous allons vivre cette nouvelle identité. Et la vie de péché, la vie de mal est incompatible avec cela. Il dira, nous qui avons reçu l'Esprit Saint de Dieu, comment ne pas être guidés par cet Esprit? Si l'Esprit de Dieu habite en nous, on suit l'Esprit de Dieu, comme Christ le faisait. Et puis finalement, Paul va quand même maintenir une loi qui est toujours là, et c'est la loi de l'amour. Quelles que soient nos libertés en Christ, quels que soient les privilèges qu'on reçoit, cette loi de l'amour qui prime dans nos relations les uns avec les autres, ça devient le guide du comportement. Mais comme fondation de notre relation avec Dieu, cette grâce qui est là, sans la loi et sans les œuvres. Et cela m'aide, donc, quand je lis Romains, quand je lis Galates et d'autres livres, de voir Paul a vraiment vécu cela. Il a essayé la loi, il a essayé les œuvres, cela n'a pas marché. Mais la grâce de Dieu en Jésus-Christ, bon, cela a tout transformé. Un autre aspect de cette grâce qu'il découvre, c'est comment elle est ouverte à tous. Les gens sont frappés lorsque Saul est converti. Et il y a cette réaction de ceux qui auraient été plutôt dans son camp, dans Actes chapitre 9, les versets 20 et 21, ceux de la synagogue. Saul se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'était-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Ils disent, « N'est-ce pas celui-là le persécuteur ?» Et bien sûr, on pense à Ananias quand il est appelé par Dieu. Il dit, « Va voir Saul. » Il dit, « Jésus, il y a ces informations au sujet de Saul. Un persécuteur à Jérusalem, notre ennemi qui est venu. » Et cette réaction de crainte ou d'étonnement, quand on dit, « Bon, Saul, c'est quelqu'un qui a été changé et qui a été transformé. » Et moi, je me pose toujours cette question. Si Saul de Tarse pouvait être sauvé, qui ne peut pas être sauvé? Et ça vient de Paul lui-même. Dans 1 Timothée 1, versets 15 à 16, il dit, « C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi le premier. Mais il m'a été fait miséricorde, afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ, montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. » Lorsque vous lisez des livres, des ouvrages sur Paul, sur sa vie, sur son œuvre, pourquoi Jésus l'a choisi, les gens diront toujours, bon, c'est quelqu'un de très éduqué, quelqu'un de très zélé, de courageux. C'est quelqu'un qui avait une expérience culturelle, multiculturelle, qui pouvait changer de contexte et toujours communiquer. Mais c'est fascinant de voir ce que Paul dit à son sujet. J'ai été choisi pour que Christ puisse montrer toute sa grâce qui est là. Il m'a pris pour être l'exemple de sa patience. Pas à cause de mes talents, pas à cause de toutes mes compétences missionnaires, même si je crois que ça jouait un rôle qui est là. Mais Paul dit, non, c'est parce que Christ peut montrer toute sa patience en moi. Comment est-ce que Paul est un exemple, selon ce texte? Bon, il y a beaucoup de manières, dans son comportement, dans sa foi, dans sa souffrance pour Christ, dans son amour pour l'Église. Mais je crois que dans le contexte ici, premièrement, c'est que Paul est un exemple parce que Paul a été sauvé. Lui qui était le persécuteur et l'ennemi de l'Église, l'ennemi de Christ, bon, Dieu l'a quand même pardonné en Jésus-Christ. Et donc, il est un exemple de grâce qui est là. Alors, Paul peut parler avec confiance et avec certitude du plan de Dieu pour le salut de tous les hommes. Paul ne va pas douter que Dieu désire le salut de tous, car il a désiré le salut de Saul de Tarse, le persécuteur de l'Église. Quelques versets après ce que nous avons lu, dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, Paul dira « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Comment est-ce qu'il savait ça? Bon, Dieu l'a sauvé, lui. Lui qui était l'ennemi et le persécuteur de l'Église, de Dieu et de Christ lui-même. Ça, c'est extraordinaire. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il a vécu cela. Il n'y a aucun doute dans son esprit à ce sujet-là. Bon, troisièmement, un aspect de la grâce qui est là, c'est l'idée de l'élection qui est là. C'est-à-dire de Dieu qui choisit et qui prend quelqu'un à part pour lui. Le message que nous voyons dans la conversion de Saul, c'est que Dieu vient chercher Saul, qui vient malgré le fait que Saul n'est pas en train de chercher un Dieu, ni de chercher Christ. On a un peu de peine avec ce mot, en tout cas moi, ce mot élection, à cause de certains des abus qu'on voit dans le calvinisme qui est là. C'est-à-dire que l'élection devient une base pour parler de Dieu qui choisit des gens pour aller en enfer. Et en tout cas, personnellement, j'ai un peu de peine avec cet enseignement-là. Mais lorsque nous regardons dans les Écritures, l'élection ici, c'est vraiment cette réalité que c'est Christ qui recherche les êtres humains. C'est Christ qui appelle les êtres humains au salut. C'est Christ qui donne les moyens pour le salut qui est là. C'est l'idée que c'est Jésus qui est en train de chercher et de sauver les gens dans le monde. L'expérience de Saul, ce n'était pas une longue recherche pour Christ. Ce n'était pas une longue réflexion spirituelle intérieure où Saul se disait « Bon, je me demande qui est Dieu ou comment il est » et puis en train de réfléchir. Non, c'était quelqu'un avec ses certitudes fausses au sujet du Messie et de Dieu. Quelqu'un qui allait dans une direction complètement fausse, mais avec zèle, avec certitude et avec ignorance. Il n'est pas en train de rechercher Christ du tout lorsqu'il est sauvé. Mais c'est Christ qui vient et qui l'appelle. Dans Actes 26, versets 16 et 18, vous l'avez sur votre feuille, il y a ce langage d'élection qui est utilisé. « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. » Il parle à Paul ici. « Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. » Et Jésus lui dit, « Ce n'est pas toi qui es venu à moi. Je t'ai choisi, je t'ai pris. » Et ça, c'est l'histoire de toute l'humanité, pas seulement de Saul. Bien entendu, on a tous des histoires différentes, et il y a une recherche dans le cœur de chaque être humain pour Dieu. Mais cette idée de la grâce dans l'élection, c'est vraiment cette certitude que ce n'est pas vraiment nous qui avons l'initiative. Ce n'est pas parce que nous avons tellement bien cherché Dieu qu'on a pu connaître Christ. Mais c'est bien le fait que Dieu, en Christ, a fait le premier pas, est venu nous chercher. C'est ce que Paul exprime dans Romains 5, versets 6 à 8. « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Au verset 10, un peu plus tard, il dira « Nous étions les ennemis de Dieu lorsqu'il a fait cela. » Avant même qu'on naisse, avant même qu'on se rebelle contre Dieu, il avait déjà prévu ce plan pour nous sauver. Avant qu'on se rende même compte de la profondeur de l'amour de Dieu, de l'existence de Christ, il avait déjà fait le nécessaire pour nous sauver. C'est Christ qui est venu nous chercher en accomplissant le plan de Dieu. Et ceci devrait rassurer notre cœur devant Dieu. Je sais que certaines personnes se posent souvent la question, est-ce que Dieu veut vraiment de moi? Est-ce que Dieu va me rejeter? Est-ce que Dieu désire vraiment me sauver? Et certains ne luttent pas du tout avec ça, certaines personnes luttent énormément avec ça. Mais nous voyons ce rappel qui est toujours là, oui, Dieu veut de nous. Il désire, il a déjà fait tout le nécessaire pour nous sauver. Ce n'est pas à nous de prendre l'initiative dans notre relation avec Christ. Il y a une réponse à donner, absolument. Il y a une obéissance à vivre, mais c'est Dieu qui a fait le nécessaire. C'est Dieu qui a pris ce pas. C'est Dieu qui nous appelle. Est-ce que nous croyons cela vraiment? Bon, je sais que Paul le croyait, parce que c'est ce qu'il avait vécu. C'est ce qu'il avait vu lui-même. Donc, ces trois points qu'on voit dans la grâce qui comprend. C'est la grâce sans la loi et qui n'est pas méritée par les œuvres. C'est cette grâce qui vient et qui est offerte à tous, même le pire des pécheurs comme Saul. Et c'est cette grâce qui est offerte par l'initiative de Dieu, une grâce d'élection, où c'est Dieu qui vient vers nous pour nous chercher et pas nous qui avons à supplier Dieu de nous sauver. Et ces certitudes-là sont basées entièrement, je crois, dans cette expérience de conversion. Ils vont se développer à travers le temps. Paul va plus le comprendre à travers les problèmes dans l'Église, à travers son expérience comme missionnaire, mais on trouve leur fondement dans ce moment de conversion. Bon, la deuxième chose à voir en général, c'est la relation de Paul avec l'Église, qui, je crois, de nouveau est basée d'une manière vraiment fondamentale dans cette expérience sur la route de Damas. Je ne sais pas si vous savez, mais l'expression « corps de Christ » pour parler de l'Église est utilisée uniquement par Paul dans le Nouveau Testament. Aucun autre auteur, aucun autre personnage dans le Nouveau Testament ne parle du corps de Christ pour décrire l'Église. C'est une idée 100% de Paul, bon, qui vient de Christ, de son esprit bien entendu. Mais c'est vraiment, ça fait partie de l'enseignement fondamental de Paul et on ne trouve pas ça vraiment dans d'autres. Peut-être Hébreux 13, verset 3, il parle d'un corps. Il y a énormément de débats sur ce petit passage qui est là, et la plupart des gens pensent que ça ne parle pas de l'Église. Mais à l'exception de ça, une seule personne dans tout le Nouveau Testament parle du corps de Christ, l'Église, et ça c'est Paul. Bon, pourquoi est-ce qu'il est si différent des autres? Bon, je crois que c'est cet appel de Jésus. Acte chapitre 9, versets 4 à 5. Paul tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, que tu persécutes. » Ces paroles sont extraordinaires, sont absolument incroyables. Il y a une réalité spirituelle surprenante auquel personne, parmi les persécuteurs pour sûr, mais peut-être beaucoup plus, ne s'attendait. Il y a une réalité spirituelle beaucoup plus grande qui se cache derrière l'Église, derrière l'assemblée des êtres humains qui adorent Christ. C'est que l'Église est une personne. Et pas n'importe quelle personne, c'est Jésus-Christ lui-même. Paul pensait qu'il persécutait des hommes et des femmes, n'est-ce pas? Il pensait qu'il était en train de prendre des individus et les jeter en prison. On apprend aussi qu'il les faisait torturer, qu'il votait pour les mettre à mort, mais il pensait qu'il s'en prenait à des êtres humains. Mais il découvre sur la route de Damas qu'il est en train de s'en prendre au Fils de Dieu, directement. Jésus n'a pas dit « Pourquoi persécutes-tu mon Église ?» Il ne dit pas « Pourquoi persécutes-tu mes disciples ?» Il dit « Pourquoi me persécutes-tu » Et il y a cette réalisation qui commence dès ici, qui est là, c'est que l'Église, c'est la personne de Jésus-Christ sur terre. L'Église, en d'autres mots, est le corps de Christ. Regardons juste quelques manières que Paul exprime cela. Dans 1 Corinthiens 12, les versets 12 et 13, ça fait partie du passage que Marc nous a lu dimanche passé, mais il dit ceci, « En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons tous été baptisés. Soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Bon, il y a tellement d'idées riches qui sont là-dessus. Mais regardez verset 13. Verset 13, vraiment d'une manière proche. Nous tous, pour former un seul corps, avons tous été baptisés. Nous parlons à juste titre du fait que nous sommes baptisés en Christ. Et Paul est 100% d'accord avec ça. Mais là, il dit, vous avez été baptisés pour former un seul corps. Le fait d'entrer en Christ par le baptême, c'est aussi entrer dans ce corps qui est l'Église. Et c'est naturel, n'est-ce pas? Si l'Église est le corps de Christ, alors si on entre en Christ, on entre aussi dans l'Église. Et de nouveau, on ne parle pas ici du bâtiment, d'accord? On ne parle pas ici d'une association cultuelle, mais vraiment en train de parler de l'assemblée de Dieu, de la communion et de la communauté des disciples de Christ, unis par la grâce de Dieu, par le baptême, là où ils entrent. Et donc, j'aime cette citation du théologien Bonhoeffer, qui était un théologien allemand au début du XXe siècle. Il dit « L'Église, c'est le Christ présent en personne. » Et nous retrouvons là une idée sur l'Église qui a été bien oubliée. Nous sommes habitués à penser à l'Église comme à une institution. Or, il faut penser à l'Église comme à une personne vivante, une personne évidemment tout à fait particulière. Et ce texte de 1 Corinthiens souligne notre besoin réel de l'Église. On entend parfois cette notion que « oui, je veux Christ, mais je ne veux pas de l'Église », n'est-ce pas ? Paul dit « lorsque vous avez été baptisés en Christ, vous avez formé un seul corps, le corps de Christ, qui est l'Église, qui est là ». Et la notion d'avoir Jésus sans l'Église est complètement absurde pour Paul. Lui qui disait « comment est-ce qu'on peut avoir Christ sans son corps, sans son passé ?» Au verset 20 et 21 de 1 Corinthiens 12, donc un peu plus loin, il y a cette idée qui est exprimée de nouveau. « Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps », il parle de l'Église. « Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. » Si nous formons un seul corps, on ne peut pas commencer à dire aux autres membres du corps, « Je n'ai pas besoin de vous, je peux me passer de vous. » Et encore un niveau plus large, on ne peut pas dire, « Bon, je vais me passer de l'Église. » L'œil ne peut pas dire au corps, « Bon, je vais me débrouiller sans vous, n'est-ce pas ? Je vais m'en passer. » Il y a une importance et un rôle fondamental et essentiel de l'Église dans la vie de tout chrétien. Et si l'Église est vraiment le corps de Christ, nous devons désirer à tout prix être dans ce corps de Christ et faire partie de l'Église. Et c'est fascinant, hein, Paul est en train d'écrire ça à probablement une des pires églises du Nouveau Testament. Il y a tout plein de problèmes qui sont là, des divisions, des factions, des gens qui se méprisent les uns les autres, des gens qui ne s'attendent pas, des gens qui vivent dans l'immoralité. Et malgré toutes ces choses, il dit « vous êtes le corps de Christ ». Et ce n'est pas quelque chose d'optionnel ou de secondaire. Bon, combien plus dans une église qui cherche dans tous les aspects la volonté de Dieu et à grandir. On ne peut pas se passer du corps de Christ. Mais bien plus que simplement s'arrêter sur cette idée que l'église est essentielle dans notre vie de foi, ça change quelque chose dans notre manière de vivre les uns avec les autres. Christ est formé, le corps de Christ est formé par plusieurs membres, par plusieurs personnes. Et à cause de ça, vu que Christ est unique, Christ n'a qu'un seul corps, il ne peut pas être divisé. Ça, c'est 1 Corinthiens 1, 13 et Ephésiens 4, 4, Paul dit, Christ n'est pas divisé. Il y a un seul corps. Et donc, dans l'Église, il existe une unité entre les membres, il existe une unité entre nous qui va plus loin que nos préférences personnelles. Il y a une unité qui existe, qui est plus profonde que nos traits de caractère, nos loisirs préférés, qui va même plus loin que parfois nos manières de nous entendre les uns avec les autres. Mais il y a une unité spirituelle et réelle qui est là, qui détermine le reste de notre comportement. L'Église est unie parce que le corps de Christ ne peut pas être déchiré en plusieurs morceaux. Ça, c'est la réalité spirituelle qui est là. À cause de ça, il faut l'exprimer. Nous avons une obligation, comme Église, de l'exprimer dans notre manière de vivre les uns avec les autres. Dans Colossiens 3, versets 13 à 15, Paul dit ceci, « Supportez-vous les uns les autres, et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » Toutes ces choses qu'il est en train de dire, supportez-vous, montrez-vous grâce, soyez patient. Ça se termine dans ce point qui est là, n'est-ce pas ? La paix dans un seul corps. Et de nouveau, ces expressions qu'on entend parfois, il y en a une que j'entends de temps en temps, pas ici, mais qui est, on dit, bon, l'Église est divisée dans le monde. On voit tellement de divisions qui sont là. L'Église est divisée humainement aujourd'hui, mais elle est unie spirituellement. Et les gens disent ça peut-être pour se rassurer un peu, pour dire, bon, il y a des divisions, mais spirituellement, ça va bien. Et si c'est vrai, on ne trouve pas ça dans les Écritures, cette manière de parler. Paul ne dirait jamais quelque chose de pareil, vous savez, de dire « oui, l'Église est divisée, mais on est tous unis spirituellement ». Paul dit l'inverse. Il dit « puisque l'Église est unie, alors commençons à vivre d'une manière qui est unie. Ne soyons pas divisés ». Quand il y a les factions, donc les différents partis qui sont en train de se former au sein de l'Église à Corinthe, il ne dit pas « bon, je sais que vous êtes divisés ». Mais heureusement, spirituellement, on est tous unis. Quand il y a les chrétiens juifs et les chrétiens d'origine grecque qui refusent d'être ensemble, qui ne mangent plus ensemble, Paul ne dit pas « oui, on est divisé par notre nationalité, mais heureusement, on est tous unis en Christ ». Non, il dit l'inverse. Il dit « Christ n'est pas divisé, Alors pourquoi est-ce que vous vous divisez les uns les autres? Et donc c'est un appel, l'unité de l'Église en Christ, ce n'est pas un appel à la complaisance par rapport à la division, mais c'est un appel à l'acte, à changer. De manière concrète, comment est-ce qu'on met cela en pratique aujourd'hui? Bon, si on commence avec nous, les uns les autres, bon, il nous a déjà dit dans Colossiens comment faire. C'est la grâce et c'est le pardon réciproque. C'est se supporter les uns les autres. C'est l'amour mutuel, l'amour réel qui est là. C'est une vie de reconnaissance. Alors peut-être un défi pour nous, c'est que chaque conversation que nous avons, chaque échange que nous avons avec un autre membre du corps de Christ doit commencer avec cette pensée que cette personne, je désire son plus grand bien. Je désire ce qui est meilleur pour cette personne. Je veux l'aimer à travers tout cet échange que nous allons avoir. Ça ne va pas forcément régler tous les désaccords qu'on a, mais ça va ancrer notre unité dans l'amour de Christ. Et encore même un peu plus difficile, peut-être si chaque échange que nous avons avec un autre membre du corps, chaque conversation, chaque moment qu'on passe ensemble, on se dit, cette personne-ci cherche mon plus grand bien. Cette personne-ci m'aime de tout son cœur. Et si on commençait nos échanges avec ça, est-ce que cela transformerait quelque chose? De nous dire, je vais tout faire pour aimer l'autre. Et je crois de tout mon cœur que cette personne m'aime. Bon, voilà la réalité que Christ désire pour son Église. Et voilà ce que Paul voulait, parce que Christ n'est pas divisé. Et nous ne désirons pas être divisés non plus. Bon, finalement, ce troisième aspect du corps de Christ, c'est qu'on doit traiter l'Église comme on traite Christ lui-même. Dans la question de Jésus qui dit « Pourquoi me persécutes-tu ?», Saul fait cette expérience pratique du fait que ce qu'il faisait à l'Église, il le faisait réellement à Christ. Mais ce qui est négatif peut aussi être positif, n'est-ce pas? Si on peut faire du mal à Christ en faisant du mal à l'Église, aux membres qui sont autour de nous, on peut faire du bien à Christ. Et Paul va se réjouir de faire du bien pour l'Église parce qu'il le fait pour Christ. Il va se réjouir même d'endurer de la souffrance pour protéger ses frères et sœurs en Christ. Dans Colossiens 1, verset 24, il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ, pour son corps, qui est l'Église. » Paul écrit ça de prison. Il est en train d'être persécuté. Il est en train de passer par tout plein de souffrances. Mais il dit « Moi, je me réjouis parce que je souffre pour vous. Je suis en train de souffrir avec Christ pour le corps de Christ. » Et Paul avait cette vision des choses, c'est-à-dire ce qu'il faisait pour l'Église, il le faisait pour Jésus-Christ lui-même. Et cela le remplissait de joie, malgré les souffrances, malgré les sacrifices, malgré les pertes qui étaient là. Et donc il y a cet appel qui est là à tout faire pour l'Église. L'avertissement est là aussi, n'est-ce pas? On peut faire du bien, on peut faire du mal. Il y a ces paroles qui sont assez inquiétantes dans 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Il parle à l'Église ici. « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Quand on s'en prend à l'Église, on s'en prend à Christ. Et Christ n'est pas indifférent par rapport à cela. Il a détruit les œuvres de Paul, ou Saul, si vous préférez, en le convertissant et en l'amenant. Mais il y a cet avertissement. On ne touche pas impunément au Messie qui est assis dans son règne à la droite de Dieu. Et donc, ces deux aspects qui sont là. Mais on va quand même terminer avec ce point positif. Ça fait presque une boucle qui est là. Comment on traite l'Église, c'est comment on traite le corps de Christ, donc Christ lui-même. Mais vu que nous faisons partie du corps, bon, ça revient vers nous, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce que nous faisons à nos frères et sœurs, on est en train de le faire pour nous-mêmes aussi. Il y a une communauté, il y a une communion dans le bien qui est là. 1 Corinthiens 12, verset 26. « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Ce qui arrive à un frère ou une sœur en Christ, un autre membre de l'Église, cela nous arrive aussi. Et donc, on peut partager la joie d'être en Christ ensemble. On peut partager la joie des réussites et des bonnes nouvelles dans la famille de Dieu. Et en même temps, on peut partager et supporter les douleurs et les souffrances qui sont partagés, parce que nous sommes réellement unis dans le corps de Christ. Et ce que nous faisons pour l'Église, nous le faisons pour Jésus-Christ lui-même. Donc juste pour résumer ces, ce deuxième point. L'Église, c'est le corps de Christ. Il y a une réalité spirituelle bien plus grande que ce qui frappe nos yeux. Il y a une unité que nous devons rechercher, mais et qui est là, qui vient du fait que Jésus-Christ est un seul, qu'il est un seul corps. Et finalement, notre manière de traiter l'Église, de se traiter les uns les autres, c'est comment nous agissons envers Christ lui-même. Bon, cela revient à ce que Paul a vécu sur la route de Damas. Quelques questions, juste de réflexion, qui sont pour vous, qui est là. Est-ce que vous pouvez penser à une fois, bon, peut-être pas aussi extraordinaire que Saul, mais une fois où la grâce de Dieu vous a vraiment marqué dans votre vie? Vous êtes vraiment rendu compte, ah, voilà ce que c'est que le pardon et la grâce de Dieu. Est-ce que ça change quelque chose pour nous